Et aujourd'hui, on va travailler sur un autre graveur également immanquable, qui est un des... Ah oui. Qui est un des éléments importants, parmi les plus importants, les plus célèbres graveurs en Occident, je dirais autrefois. Ce graveur, comme d'habitude, on va entrer dans son œuvre par une première pièce que je vais vous montrer, qui va être un peu l'introduction, si vous voulez, à cette séance, et qui va vous permettre, je crois, très vite, de savoir de quel graveur il s'agit. Voilà, c'est pas compliqué pour le coup. Voilà. C'est effectivement Albrecht Dürer. C'est d'autant moins compliqué que c'est signé AD. Vous reconnaissez en bas les initiales. Donc, pas de problème, on sait de quoi il s'agit. Alors, si l'appartenance encore plus de Dürer est, à mon avis, immanquable et assez évidente, j'aimerais maintenant que vous me commentiez cela. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette œuvre qui est devant vous? Une naïade. Ok.
Mais surtout un paysage.
Et un paysage.
Un château en haut et en bas.
Ok. Donc un paysage, effectivement très prégnant, très important, et au premier plan une naïade. Une naïade.
Un monsieur.
Alors il y a un monsieur avec la naïade. Hein. D'ailleurs, c'est quoi ce monsieur? Oui, c'est un monsieur un peu poisson. Hein. Alors, ça pourrait effectivement être Neptune, mais Neptune a un corps, enfin, je vais vous montrer, mais un corps plus humain. Hein. Là, le monsieur, il a un corps un peu poisson. Hein.
Une carapace de tortue.
Il a une carapace de tortue qui lui sert de. Oui, une sorte de bouclier ornemental. Comment est-ce qu'on appelle d'ailleurs ces personnages humain et poisson à la fois? Alors, sirène est un mot qui peut être un mot générique, effectivement, mais en même temps, une sirène est plus une sirène femelle, mais les sirènes mâles ont un nom, si j'ose dire. Non. Pardon? Je ne crois pas. Triton. Le triton, c'est le monsieur sirène. Donc on a eu un triton et effectivement une sorte de naïade. Bon. Qu'est-ce que vous inspire au niveau de la façon de représenter, mais également du sens peut-être qu'il y a derrière cette gravure, puisque gravure il y a.
Des gens qui s'affolent sur notre rive, là.
Oui, on voit effectivement des gens qui s'affolent sur notre rive. Pourquoi d'ailleurs?
Parce qu'il y a l'enlèvement.
Ben oui, il y a peut-être effectivement eu un enlèvement, un rapt. Donc il y a quoi s'affoler, hein. Surtout que le triton est un peu spécial.
Il ne regarde pas dans le même sens.
Non, la femme regarde en arrière. Elle semble effectivement s'inquiéter de devoir quitter le lieu d'où elle vient. Elle était en train de se baigner, visiblement, hein. Vous voyez les personnages qui se baignent derrière. Et puis, ce triton est venu la rapter. Et puis, qu'est-ce que ça peut vous rappeler, à quoi ça peut vous faire penser cette représentation? Une scène mythologique. Est-ce qu'il y a une scène mythologique particulière qui nous apparaît?
Non, il y a tellement de femmes qui sont faites.
Ah, il y a pas mal de femmes qui sont fait rapter, oui. Alors, je vois, vous penseriez qu'il y a une particulière?
Est-ce que ce serait la Lorelai?
Pardon?
Est-ce que ça serait la Lorelai?
Ah! Alors là, on est dans une mythologie qui n'est pas gréco-romaine. On est dans une mythologie autre. Une mythologie germanique.
Il y a l'enlèvement de Rome.
Alors, il y en a une autre Europe, mais évidemment, Europe est formée
par
Zeus, qui est en forme de
taureau.
Donc là, on n'a pas un taureau.
Antiope.
C'est
ça?
Alors, il y a un passage du Pierre Antiope. Jupiter s'est transformé en satyre et a effectivement courtisé Antiope.
Qu'est-ce qu'on a encore?
Thank you.
En tout cas, ce que vous me dites là, c'est qu'on est devant quelque chose qui évoque la mythologie. Je vous gêne pas en passant devant. Parce que c'est comme vous avez tout à l'habitude de faire. Donc moi, il faut que je ne bouge pas. Je ne peux pas rester à mon bureau. Oui, et donc, oui, ce que j'entends, c'est que vous soulignez là qu'on est devant une scène qui semble, entre guillemets, mythologique, hein, mais que finalement, aucun des thèmes mythologiques que l'on connaît ne s'accorde vraiment à ce que l'on voit. Et puis, vous évoquez également le relais, c'est-à-dire, cette fois, une dimension plus germanique, du mythe, on va dire, hein, ce qui veut dire qu'on aurait là quelque chose qui n'est ni proprement mythologiquement gréco-romain, qui semble un peu germanique, mais qui n'est ni complètement l'un ni complètement l'autre. Ce que je veux dire, ça mélangeait les deux. C'est une provision que je fais. À vrai dire, c'est vous qui l'avez suggéré, hein, de ce que vous dites, ça ressemble à une scène mythologique, mais il n'y en a aucune de contre ça. Et puis en même temps, d'évoquer la langue là, c'est quelque chose de mythologie germanique. Si on met ensemble l'un et l'autre, c'est comme si c'était l'un et l'autre, et aucune à la fois. Enfin, non ? C'est bien de dire pour une gravure, d'ailleurs. Mais à vrai dire, c'est peut-être le but. Si c'était ça, on se rapprocherait de la Lorelai, justement. À vrai dire, justement, cette manière de tournicoter autour du sujet, je crois, aurait beaucoup plus à Dürer. Parce que c'est, grosso modo, exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que vous avez là quelque chose qui évoque des thèmes mythologiques, Europe, etc., Perséphone, enfin, il y a pas mal de gens qui se sont enlevés, effectivement, mais qui n'est pas ça. Alors, en cherchant bien, on trouverait peut-être effectivement un triton qui enlève une naïade, enfin, c'est pas très évident. Et puis, effectivement, dans la mythologie du Nord germanique, il y a des tas de scènes un peu équivalentes. Hein. Donc, évidemment, on hésite un peu, on ne sait pas trop. Et quelque part, c'est germano-gréco-romain et gréco-romain-germanique. Si d'ailleurs, au niveau de l'esthétique, au niveau du style, je ne parle pas le mot, enfin de l'œuvre, qu'est-ce que vous auriez à dire ?
Très détaillé,
oui. Oui, il y a vraiment un traitement du détail extraordinaire. Bon, Dürer est un graveur immense. Hein. Donc, on n'en est pas à notre premier de nos émerveillements, je crois bien.
Il y a uniquement trois plans.
Oui.
Avec la mer, probablement, parce qu'il y a un voilier.
Oui.
Une rivière. Oui, une rivière, mais il y a quand même
un bateau. Oui, il y a un bateau. On a l'impression peut-être d'une rivière qui entre dans la mer, parce qu'il y a finalement une berge au premier plan. Hein. On emmène la jeune femme au large, semble-t-il. Hein.
Le paysage aussi rappelle beaucoup le paysage de son époque, avec des châteaux, des forteresses.
Hein. Oui.
C'est très, très germanique.
Oui.
C'est médiéval.
Donc, quelque chose de très médiévalo-germanique. Complètement, justement. Est-ce que pour vous, c'est vraiment 100% germanique ?
Il y a un usage de la perspective, par exemple, qui n'est pas vraiment médiévale.
C'est vrai que là, on a une perspective très profonde et qui rompt plutôt, effectivement, avec ce qu'on a vu, ce que l'on a au Moyen-Âge, de chez Moyen-Âge. Dürer est d'ailleurs, à la fin de cette perspective et au début de la Renaissance. Est-ce que donc, au niveau du style de l'œuvre, vous avez souligné le paysage, la manière très précise, etc. Est-ce qu'on est dans. Vous avez noté aussi que l'esthétique médiévale était contrebalancée par notamment cette idée de la perspective qui n'est pas une chose très médiévale avant la fin du Moyen-Âge. Est-ce que donc on est dans quelque chose de 100% germanique, au niveau de la manière de faire, de présenter les choses?
Non, c'est vrai qu'on pourrait se rapprocher un peu de l'Italie.
Le château ?
Non, l'ensemble.
Oui.
L'ensemble et
l'architecture est un peu germanique.
L'architecture est assez germanique, effectivement.
Moi, il y a un élément que je ne trouve pas vraiment germé, que je trouve vraiment très antiquisant, très gréco-romain.
C'est la partie avant, là, parce qu'il y a les personnages avec les flots, la nudité.
Oui, je crois effectivement que la naïade, on l'a comme ça, sauf que je crois que c'est une naïade malgré elle, hein, parce qu'évidemment c'est une bonne humaine qui se baignait dans la rivière et qui est emmenée par ce triton qui arrive de la mer. Hein. Je trouve qu'elle a quelque chose de très italo-antique, si vous voulez. Oui, par exemple. On a vraiment l'impression d'une sculpture antique à l'horizontale, si vous voulez. Hein. On a l'impression d'une sculpture hellénistique qui serait donc vraiment gréco-romaine, quoi, la grande tradition antique, qui serait intégrée dans un décor qui, lui, effectivement, est plus germanique. Quoi. C'est-à-dire que on a finalement, au niveau du sens, le même mélo qu'au niveau de la forme. Vous voyez ce que je veux dire? On a au premier plan cette femme qui vient enfin, du vieux vocabulaire antiquisant et italianisant. Hein. D'ailleurs, le thème du triton est un thème très, très